Vicente Blasco Ibáñez, Contes espagnols d'amour et de mort. Le second mariage du Père Cento. Chapitre 1. Les habitants de Bénismulin furent stupéfaits de la nouvelle. Le Père Cento se mariait. Lui, un des notables du village, le plus important contribuable du district. Et la fiancée, c'était la belle Marietta, fille d'un charretier, ayant pour toute dot sa frimousse brune, son sourire aux gracieuses fossettes, ses immenses yeux noirs qui semblaient dormir sous les longues paupières, entre deux torsades de cheveux, drus et brillants, qui lui couvraient les tempes. Plus d'une semaine, cette nouvelle mit en émoi la tranquille bourgade qui, dans son vaste horizon de vignes et d'oliviers, dressait ses toits sombres, ses murs d'une blancheur éblouissante, son campanile au bonnet de tuiles vertes et sa haute tour mauresque, carrée et rouge, dont la couronne de créneaux, rompus ou ébréchés, se détachait sur le bleu du ciel. Il devait être féru d'amour, le Père Cento, pour violer ainsi toutes les coutumes. Avait-on jamais vu un homme si riche, possédant le quart de la contrée, avec plus de 100 outres de vin dans sa cave, 5 mules à l'écurie, épouser une fille qui, dans son enfance, maraudait dans les jardins ou travaillait chez les bourgeois pour sa nourriture? Ce n'était qu'un cri. Si Mame Tomasa, première femme de Cento, sortait de sa tombe, si elle voyait sa grande maison de la rue Mayor, ses champs, sa superbe chambre à coucher, sur le point d'appartenir à cette morveuse qui autrefois lui demandait du pain, que dirait-elle? À coup sûr, il était fou. Il suffisait de voir la ferveur amoureuse, le sourire niais, les airs conquérants de ce jouvenceau de 56 ans révolu. Les plus indignés, c'étaient les jeunes filles de familles aisées qui, dans leur égoïsme de paysannes, n'auraient trouvé nul inconvénient à offrir leur main brune à ce vieux coq de village qui serrait son ventre proéminent sous une ceinture de soie et dont les petits yeux gris et durs brillaient à l'ombre de sourcils énormes contenant, au dire de ses ennemis, plus d'un kilo de poils. Tous convenaient qu'il avait perdu la raison. Tout ce qu'il possédait avant son premier mariage, tout ce qu'il avait hérité de Mame Tomasa, tout cela devait passer à cette sainte Nitouche qui avait su l'affoler, à tel point que les dévotes, à la porte de l'église, se demandaient si Marietta n'avait pas fait un pacte avec le malin et donné aux vieux des poudres diaboliques. Il fallait entendre les parents de Mame Tomasa après la grand-messe où l'on publia les bans pour la première fois. C'était un vol qualifié, oui, monsieur. La défunte avait tout laissé à son mari parce qu'elle croyait à sa fidélité. Et maintenant, le grand filou, en dépit de son âge, cherchait un jeune tendron et lui faisait cadeau du bien de l'autre. La justice était bannie de ce monde si on tolérait cela. Mais allez donc protester à notre époque. Monsieur le curé, Don Vicente, avait raison de dire que c'était la fin de tout. Ah, si Don Carlos était roi d'Espagne, les choses iraient bien mieux. Évidemment, ce mariage finirait mal. Ce vieux birbe, atteint de rage amoureuse, était destiné à pleurer son coup de tête. Ça allait faire du joli. Tout le monde savait que Marietta avait un amoureux. Tony le déguenillé, un vagabond qui avait passé son enfance à courir les vignes avec elle et qui, maintenant, l'aimait pour le bon motif et attendait pour se marier de prendre goût au travail et de perdre l'habitude de boire au cabaret les 4 mottes de terre de son patrimoine en compagnie de son grand ami Dimoni, le joueur de musette, autre vaurien, qui venait le chercher du village voisin pour s'enivrer et cuver son vin avec lui dans les paillers où ils s'endormaient ensemble. Les parents de Mame Tomasa regardaient maintenant le déguenillé avec sympathie. Voilà celui qui se chargerait de les venger. Et les mêmes gens qui le méprisaient autrefois, qui détournaient la tête en le rencontrant, allèrent le trouver à la buvette le jour où furent publiés les premiers bans et se plantèrent devant ce rustre, assis sur un tabouret de corde, un bout de cigarette collé à la lèvre, le regard fixé sur le pichet qui, frappé d'un rayon de soleil, se reflétait, mobile tache rouge, sur le zinc de la petite table. « Eh, déguenillé !» lui disait-il, goguenard. « Mariette a ce mari !» Tony accueillait la raillerie d'un haussement d'épaule. « C'était à voir. Nul n'est heureux jusqu'au bout. Et lui, mordieu, on savait bien qu'il était homme à regarder en face le Père Ossinto, qui lui aussi faisait le bravache. » Et c'était vrai. Aussi, tous s'attendaient-ils à une rencontre à grand fracas. Santo, suivant sa propre affirmation, était brut comme pas un. Électeur influent, ayant de nombreux amis à Valence, plusieurs fois alcade, il n'était pas rare de le voir brandir en pleine place sa grosse trique de Lyria pour en administrer deux coups avec la plus complète impunité au premier importun qu'il rencontrerait. Chapitre 2. Vint le moment du contrat. Santo ne faisait pas les choses à demi. D'ailleurs, Marietta et sa famille n'étaient pas gens à dédaigner pareille aubaine. Santo la dotait de 300 onces d'or, non compris les effets et les bijoux ayant appartenu à sa première femme. La maison de Marietta, cette hutte située hors du village, sans autre ornement que la charrette devant la porte et deux ou trois maigres haridelles à l'écurie, fut visitée par toutes les jeunes filles du pays. On eût dit un jubilé. Toutes, en groupe, se prenant par la taille ou le bras, passaient devant la longue table, couverte de blanc, sur laquelle les cadeaux offerts à la fiancée et son trousseau s'étalaient avec une magnificence qui provoquait des exclamations de surprise. « Reine et très sainte Vierge, que de belles choses !» Le linge bis, comme l'est la toile forte, s'élevait en piles régulières presque jusqu'au plafond, bien plié, sentant bon la lessive et la propreté. Le tout par douzaines de douzaines, depuis les chemises jusqu'aux torchons de cuisine, aux initiales voyantes. Puis c'étaient les dessous, garnis de dentelles à profusion, les vêtements de grosses soies grinçantes aux reflets métalliques, les jupes de percal à ramages, d'une fraîcheur de printemps, les mantilles aux arabesques fines et compliquées, les corsets blancs et noirs, pointillés de rouge, dont les contours rigides dessinent les formes avec audace, les châles de manille, sur lesquels des oiseaux de féerie volent en un ciel de soie blanche, et où l'on voit des Chinois aux têtes de porcelaine, les uns moustachus et fiers, les autres tondus et niais, admirés des ingénus qui rêvent tout éveillés dans ces contrées mystérieuses où les hommes portent des jupes. Près de là, les cadeaux des amis, de jolis bénitiers d'alcôve avec leurs anges de porcelaine, des boîtes de couteaux, des couverts d'argent, deux candélabres majestueux. Ceci, c'était le présent du marquis, du cacique de la région, l'homme le plus éminent d'Espagne, au dire de Santo, qui, lorsqu'il s'agissait de le faire nommer député du district, était tout prêt à empoigner son gourdin ou à mettre l'escopette en joue. Et, comme digne finale de cette exposition, les bijoux brillaient sur le velours grenat des écrins, les boucles d'oreilles ornées de perles, les grandes épingles pour le corsage ou la chevelure. Enfin, cette parure, fameuse à Bénimuslin, que Maham Thomas avait achetée 14 onces rue des Platerias. Heureuse Mariette! Elle faisait la modeste et rougissait lorsqu'elle entendait vanter son bonheur. Il fallait voir aussi les grosses larmes de sa mère, une femme ridée et maigre, insignifiante, et l'émotion du charretier qui suivait partout son futur gendre et montrait pour lui toute la considération due à un être supérieur. La lecture du contrat se fit dans la soirée. Don Julien, le notaire, descendit de sa vieille carriole, accompagné de son clerc, un pauvre diable d'aspect famélique, avec un encrier de corne émergeant d'une poche et du papier timbré sous le bras. Don Julien fut porté presque en triomphe dans la cuisine où l'on avait préparé un grand chandelier à quatre branches. Le docte personnage avait l'habitude de lire les contrats en dialecte valencien, tout en intercalant dans le texte des plaisanteries de son cru. Les gens les plus graves n'auraient pu garder leur sérieux devant cet homme de loi à la longue redingote noire, semblable à une soutane, au visage frais et joufflu, aux grosses lunettes relevées sur le front, ce qui, pour les naturels de Bénismulin, était un caprice inexplicable, particulier au grand talent. Le notaire se mit à dicter à voix basse. Son clerc griffonnait sur les feuilles de papier timbré, pendant que les amis de la maison arrivaient avec le curé et l'alcade, et que les cadeaux de noces disparaissaient de la longue table pour faire place aux galettes saupoudrées de sucre, aux confitures à l'amande, aux tartelettes, sèches comme du carton, sans compter une douzaine de bouteilles de marasquin. Don Julien tout sauta plusieurs fois, se leva en tirant les revers de sa redingote, et tout le monde devint silencieux lorsqu'il prit les feuilles où l'encre était fraîche encore et commença la lecture. En nommant le futur, il fit une grimace, dont Cento fut le premier à rire. Quand il en vint à la fiancée, il salua Mariette d'une véritable révérence de cour, et l'on rit encore. Mais quand il s'agit des conditions du contrat, tous devinrent graves. Un vent d'égoïsme et de cupidité passa dans cette cuisine. Mariette leva la tête, les yeux brillants, les ailes des narines dilatées d'émotion, lorsqu'elle entendit parler d'Once, de la vigne de l'Ermitage, des oliviers du chemin creux et de tout ce qui allait lui appartenir. Cento était le seul qui sourit, satisfait qu'une si honorable assemblée put apprécier sa munificence. Lorsque les pièces furent dûment paraffées, les gâteaux et les rafraîchissements commencèrent à circuler. Le notaire faisait de l'esprit, pendant que son famélique clerc s'empiffrait pour lui et pour son patron. La cérémonie prit fin à 11 heures. Le curé venait de se retirer, honteux d'être encore debout, alors qu'il avait à dire la messe de l'aube. L'alcade l'avait accompagné. Cento sortit enfin avec le notaire et son clerc, qui l'emmena chez lui pour y passer la nuit. Les rues étaient obscures. Par-delà la maison de Mariette, c'étaient les ténèbres épaisses enveloppant la campagne, d'où s'élevaient des bruissements de feuillage et des chants de grillons. Au-dessus des toits, les étoiles clignotaient dans un ciel d'un bleu sombre, les chiens aboyaient dans les cours en répondant au hennissement des bêtes de travail. Le notaire et son secrétaire marchaient avec précaution, craignant de se heurter à des cailloux.
« Ah ouais, Maria pourissime !» criait au loin la voix rauque du veilleur de nuit. « 11 heures, beau temps !»
Et Don Julien se sentait quelque peu inquiet dans ses ténèbres. Il croyait voir des formes suspectes, des gens aux aguets au tournant de la rue. Soudain, une fusée déchira l'ombre, un énorme pétard éclata. Tout tremblant, le notaire se colla à une porte pendant que le clerc tombait presque à ses pieds. Cento demeura vaillamment au milieu de la rue.
Crédier, il savait bien d'où ça venait. « Voyou, canaille !» rugit-il d'une voix étranglée par la fureur. Il brandit son gourdin et avança, menaçant, comme si, au-delà de ce tournant de rue, il allait trouver le déguenillé avec toute la parenté de Maham Thomas.
Chapitre 3. Depuis le matin, les cloches de Bénismoulin sonnaient à toute volée. Cento se mariait ce jour-là. Cette nouvelle avait circulé dans tout le district et de tous les villages voisins accouraient amis et parents, les uns à cheval sur leurs bêtes de labour, portant sur le dos des couvertures aux couleurs criardes, les autres dans leurs carrioles, transportant toute la famille, depuis la femme aux cheveux luisants d'huile jusqu'à la marmaille. La maison de Cento était transformée en un véritable abattoir. Dans la cour, le boucher du village fendait les coups des poules, les gamins les plumaient avec enthousiasme. Partout voltigeaient des nuées de plumes, d'autres se collaient au sol taché de sang. On flambait les volailles, dont la peau était encore hérissée de duvet, puis les victimes étaient suspendues à une branche du figuier, où la mère Pasquale, vieille servante de la maison, avec des délicatesses de chirurgien expert, les ouvrait de haut en bas pour en extraire le foie et les ovaires, mais exquis pour le déjeuner des marmitons. On voyait dans la cour d'énormes poêles, montrant leurs panses couvertes de suie et leur intérieur brillant comme de l'argent. Des sacs de riz, de grands baquets débordant de saumure, d'où les escargots tiraient leurs cornes au soleil, et, s'accumulant en un coin, toute une fournée de pain rond, répandant leur bonne odeur chaude dans cette atmosphère de sang et de graisse. De la cave sortaient des outres qui tombaient, tremblantes, sur le sol, comme des corps palpitants. Les unes, immenses, contenant le vin rouge pour le repas, les autres, plus petites, renfermant un véritable nectar clair et capiteux dont on parlait dans tout le village avec respect. Dans la chambre à coucher étaient en réserve les friandises, les tartes, les gâteaux à la crème battue, toutes sortes de bonnes choses que les enfants contemplaient de la porte, pâles d'émotion, en se suçant le doigt d'un air gourmand. La fête promettait. La joie brillait sur les visages enflammés. Dans la cour, on dénouait déjà les peaux de bouc. Il fallait goûter le vin et prendre des forces. Là-bas, dans la rue, résonnait la musette de Dimoni, qui, lui aussi, était de la fête. Enfin, l'heure fixée pour la cérémonie religieuse était venue. Le cortège nuptial se forma. En avant, une troupe de galopins, faisant des cabrioles autour de Dimoni, qui soufflait la tête en arrière dans son instrument. Puis les futurs époux. Lui, avec son immense chapeau de velours et sa cape à manches qui lui congestionnait le visage. Quant à elle, on eût dit une dame de la ville, avec la mantille de dentelle, le châle de manille qui, de sa longue frange, balayait la poussière, la jupe de soie, gonflée par d'innombrables cotillons, le chapelet de nacre au poignet, les oreilles distendues et rougies par ces énormes pendants de perles que l'autre était si fier de porter autrefois. Voilà ce qui révoltait les parents de Maham Thomas.
« Voleur ! Trois fois voleur ! » rugissait-il en regardant Cento.
Celui-ci s'engagea dans l'église d'un air satisfait, ses petits yeux lançant des étincelles sous ses énormes sourcils. Derrière lui défilèrent les témoins, l'alcade avec sa troupe d'alguazils, le fusil sur l'épaule, et tous les convives suant à grosses gouttes sous le poids des capes de cérémonie, avec de grands mouchoirs aux pointes nouées, passés aux bras, mouchoirs gonflés de dragées qu'ils devaient lancer à la sortie de l'église. Les curieux, restés à la porte, regardait le cabaret de la place. Dimone y s'y rendit comme si les sons de l'orgue l'agaçaient. Il s'y rencontra avec le déguenillé et ses grands amis, tous les miséreux du pays qui buvaient en silence, échangeant des clins d'yeux et des sourires avec les ennemis de Cento. Évidemment, un complot se tramait. Les femmes commentaient l'événement d'une voix mystérieuse, comme si elles craignaient que le feu ne fût sur le point de prendre aux quatre coins du village. Le cortège allait enfin sortir de l'église. Une marmaille, ébouriffée et sale, qui semblait surgir de la poussière, se bousculait à la porte, en criant « Les bonbons, les bonbons !» pendant que Dimone y s'approchait en attaquant la marche royale. « Attention !» Cento en personne lança une vraie mitraille de dragée qui, ricochant sur les caboches dures, s'enfoncèrent dans la poussière où les galopins se mirent à les chercher à quatre pattes. De là, jusqu'au logis des époux, ce fut un bombardement en règle. Les dragées ne cessaient de pleuvoir et les alguazils étaient obligés de s'ouvrir un passage à coups de pieds et de triques. En passant devant la buvette, Marietta baissa la tête et pâlit de voir son mari jeter un sourire ironique au déguenillé qui lui répondit par un geste obscène. Ah, le misérable s'était juré de lui gâter son jour de noces. Le chocolat attendait. De la tempérance, les amis! C'était Don Julien qui donnait ce conseil. Il fallait penser que le grand repas aurait lieu dans 2 heures. Mais, en dépit d'un si sage avis, on se rua sur les rafraîchissements, sur les corbeilles de biscuits, sur les assiettes de sucreries. En peu de temps, la table fut rase, comme la paume de la main. La mariée changeait de vêtements dans la chambre à coucher. Elle reparut en robe de percale, les bras nus, les perles de ses épingles d'or brillant dans sa chevelure peignée avec art. Le notaire causait avec le curé qui venait d'arriver, coiffé d'une calotte de velours et vêtu de son long manteau à pointe. Les convives allaient et venaient dans la cour, s'informant des préparatifs du festin. Les femmes s'étaient mises à l'aise et babillaient de leurs affaires de famille. Près de la porte donnant sur la rue, résonnait l'infatigable musette de Dimone, pendant que la marmaille se bousculait, se cognait, roulait dans la poussière, pour ramasser les dragées qu'on lançait de l'intérieur de la maison. Le moment solennel était venu. Les plats de riz à la mode du pays, dont le contenu bouillait, en laissant échapper une fumée bleuâtre, furent posés sur la table. Les invités s'empressèrent de prendre place. Quel splendide coup d'œil! Le curé stupéfait s'écriait « C'est mieux qu'un festin de Balthazar !» Et le notaire, pour ne pas être en reste, parlait des noces d'un certain Camacho dont il avait lu la description dans un livre dont il avait oublié le titre. Le menu fretin festoyait dans la cour. Dimone y s'y trouvait et, à chaque instant, il envoyait son acolyte à l'endroit où étaient les outres pour faire remplir son pichet. Tout le monde s'y était mis consciencieusement. Les dentures, fortifiées par le repas quotidien de salaison, se choquaient allègrement et les yeux fixés avec tendresse les grands plats dans lesquels les morceaux de poulet étaient presque aussi nombreux que les grains de riz, gonflés d'un bouillon substantiel. Le mouchoir accroché sur sa poitrine, en guise de serviette, il y avait là un gros moine qui engloutissait les aliments comme un ogre, pendant que les femmes faisaient des manières, portant à leur bouche l'extrémité de la cuillère, avec 2 grains de riz, selon la coutume des campagnardes qui trouvent peu décent de s'empiffrer en public. C'était un banquet de bonne compagnie. On n'y mangeait pas à même le plat. Chacun avait son assiette et son verre, ce qui embarrassait nombre d'invités, habitués à lancer un croûton sur le riz pour signifier que le moment était venu de passer le pichet de main en main. À peine Mariette touchait-elle les mets du bout des lèvres. Elle était pensive et un peu pâle, tournant parfois les yeux avec anxiété du côté de la porte, comme si elle craignait de voir apparaître le déguenillé. Ce vaurien était capable de tout. Elle croyait encore entendre les derniers mots qu'il avait prononcés lorsqu'ils s'étaient séparés pour toujours. Il lui avait dit qu'il lui donnerait un jour de ses nouvelles. Le plus étrange, c'est que la grande colère du déguenillé lui faisait tout de même plaisir, car au fond, elle avait un faible pour ce misérable avec qui elle avait grandi. Déjà, les plats étaient vides et l'on servait les spécialités culinaires de Pasquale. Poulets rôtis et farcis, filets de porc aux tomates. On tira de la chambre à coucher les vol-au-vent, les gâteaux et les tartes. On vida une bonne bouteille de derrière les fagots. Mariette, une assiette à la main, se mit alors à faire le tour de la table. « Pour la mariée, disait-elle d'une voix douce. C'était plaisir de voir les belles pièces reluisantes tomber sur l'assiette. Tout le monde donna jusqu'au notaire qui lâcha 5 douros en se disant qu'il se rattraperait sur les honoraires. Le curé, d'un air maussade, tira 2 pesetas. C'était peu, mais l'église était si pauvre en Espagne. Enfin, Marietta ouvrit l'immense poche cousue à sa jupe, où elle vida l'assiette. Les pièces y tombèrent en tintant gaiement. Le banquet tirait à sa fin. Le petit vin clairé produisait son effet. Tous parlaient à la fois. Les plus gais criaient « Silence, silence !» et improvisaient des couplets en l'honneur des mariés. Le notaire était dans son élément. Il prétendait que le Père Sainte venait de le pincer sous la table, prenant ses jambes pour celles de Marietta. Il parlait de la prochaine nuit, de manière à faire rougir les jeunes filles et sourire les mères. Le curé, en gaieté, les yeux humides et brillants, s'efforçait de rester grave en disant d'un air bon enfant « Voyons, don Julien, de la tenue !» « Rappelez-vous que je suis ici !» Certains, sous l'influence du vin, revenaient à leur brutalité première. Ils criaient, gesticulaient debout, faisant rouler verres et bouteilles. Ils accompagnaient de leurs chants la musette de Dimoni, au son de laquelle quelques couples dansaient dans la cour. À la fin, ils se divisèrent instinctivement en 2 bandes, et d'un bout à l'autre de la table, ils se mirent à se lancer les dragées à pleine poignée de toute la force de leurs bras. Sainte riait de tout son cœur. Le curé prit la fuite avec les femmes et alla se réfugier dans la cuisine. Le notaire se cacha sous la table. Les vitrines des buffets tombaient, brisées en 1000 morceaux. Les champions, de plus en plus excités, ne trouvant plus de dragées, se lançaient des cuillères et des débris d'assiettes. « Assez ! En voilà assez !» cria Cento. Comme il refusait d'obéir, il se leva et de haute lutte les jeta dehors. Alors les femmes revinrent en compagnie du curé tout tremblant. « Sainte Vierge ! Voilà qui passait les bornes ! C'était un jeu de brutes !» Elles se mirent à soigner les blessés, qui essuyaient leur sang, tout en assurant qu'ils s'étaient bien amusés. Blessés et infirmières retournèrent s'asseoir à la table saccagée, où le vin répandu et les restes du repas faisaient des taches répugnantes. Mais bientôt, quelques respectables matrones se levèrent précipitamment, en disant que quelque chose marchait sous la table et leur pinçait les mollets. C'étaient les gamins qui, n'étant pas encore rassasiés, cherchaient à 4 pattes les résidus de la bataille. « Racaille endiablée ! Hors d'ici ! Hors d'ici !» Chapitre 4. À 10 heures du soir, il ne restait que peu de monde dans la maison des mariés. Dès la tombée de la nuit, les charrettes et les montures harnachées avaient commencé à sortir de l'écurie. La majeure partie des convives retournaient à leur village en chantant à tue-tête. Les gens de Benny Mousseline se retiraient aussi et, dans les rues obscures, plus d'une femme emmenait avec peine son mari titubant qui était incapable de s'enivrer les jours ordinaires mais qui, les jours de fête, se mettait en gaieté comme tout le monde. La carriole du notaire sautait sur les pavés de la rue. Don Julien, les lunettes sur le bout du nez, somnolait, laissant le clerc conduire, bien que celui-ci fût aussi ému que son patron. Cinto, resté seul avec Marietta, ne savait que dire. Il ne pouvait que répéter « Mordieu !» Ah, il avait été plus entreprenant autrefois avec Mame Tomasa. Sans doute l'effet de l'âge. Enfin, il prit à Mariette à d'entrer dans la chambre à coucher. Mais c'était une singulière personne que cette petite. Jamais il n'avait vu créature si têtue. Elle ne voulait rien entendre. Plutôt mourir. Elle voulait passer la nuit dans un fauteuil. Le vieux se fatigua de la prier. Puisque tel était son caprice, bonne nuit. Et prenant la lampe, il entra dans la chambre. Mais Marietta avait horreur de l'obscurité. Cette grande maison inconnue lui faisait peur. Elle croyait voir dans l'ombre la large face, aux taches de rousseur, de Mame Tomasa. Toute tremblante, elle se précipita dans la chambre à la suite de son époux. Maintenant, elle regardait cette pièce, qui était la mieux de la maison, avec ses chaises d'osier fabriquées à Vitoria, ses murs couverts de chromos et ses grandes armoires. Sur la commode ventrue, aux poignées de bronze, il y avait sous un énorme globe une statue de la Vierge et un bouquet de fleurs flétries de chaque côté des candélabres de cristal aux bougies jaunes, déformées par le temps et salies par les mouches. Près du lit, un bénitier avec la palme du dimanche des rameaux et, suspendu à un clou, le fusil du Père Cento, une arme de fort calibre, toujours chargée de gros plomb. Enfin, suprême élégance, le lit monumental de Mame Tomasa, à la tête duquel était sculptée la cour céleste et dont la literie était formée d'un amoncellement recouvert de matelas de damas rouge. Le Père Cento souriait, satisfait de son succès. Bien! C'était ainsi que Mariette devait toujours obéir gentiment. Malgré sa rudesse habituelle, il lui parlait d'une voix très douce, comme s'il avait une praline dans la bouche. Enfin, il allongea le bras. « Restez tranquille !» dit-elle effrayée. « Ne m'approchez pas !» Elle s'éloigna, poursuivie par Cento, qui, ne pouvant l'atteindre, finit par lui accorder une trêve et se mit à se déshabiller avec résignation. « Es-tu bête ? » répétait-il philosophiquement, pendant qu'il enlevait ses espadrilles, son pantalon de velours, et qu'il dénouait la ceinture noire qui lui comprimait l'abdomen. 11 heures sonnèrent au clocher. Il fallait en finir avec ce jeu ridicule. « Mariette, se couchait-elle ? Oui ou non ?» La voix était si impérative que la mariée se leva comme un automate et, se tournant vers le mur, se dévêtit lentement. Elle enleva le foulard noué à son cou, puis, après de longues hésitations, le corsage, qui tomba sur une chaise. Elle gardait encore le corset blanc aux arabesques rouges, qui laissait voir son dos brun aux tons chauds et ombrés, dont la peau fine avait le velouté de la pêche mûre. Le Père Cento s'approcha cauteleusement. Son ventre énorme et flasque ballottait à chacun de ses pas. « Allons, petite, ne fais pas la sotte. Je vais t'aider à te déshabiller. » Il tenta de se placer entre elle et le mur, et comme Marietta tenait ses bras fortement croisés sur sa poitrine rebondie, il essaya de les séparer. « Non, je ne veux pas » s'écria-t-elle. « Non, au diable, va-t'en !» Avec une vigueur inattendue, elle écarta ce ventre qui lui barrait le passage, et toujours cachant ses seins, elle se réfugia entre le lit et la cloison. Sainte se mit en colère. C'était passer les bornes de la plaisanterie. Il poursuivit Marietta dans sa retraite, mais à peine eut-il fait quelques pas, qu'il lui sembla que tout le village s'écroulait, que la maison était assaillie par tous les diables et que l'heure du jugement dernier était venue.
Ce fut un tintamarre infernal, un bruit confus de grelots, de sonnailles, de bidons de pétrole frappés à gros coups de bâton. Puis bientôt partirent des pétards sifflant, éclatant tout près de la fenêtre avec des lueurs rougeâtres d'incendie.
Sainte comprit de quoi il s'agissait. L'auteur, il le connaissait.
Le compte de cette crapule serait vite réglé si la prison n'était pas à craindre. Le vieillard trépignait. Il n'était plus amoureux, il ne songeait plus à Mariette, qui, d'abord frappée de stupeur, pleurait maintenant, comme si ses larmes pouvaient tout arranger.
Ah, ses amis l'avaient bien dit. Puisqu'elle se mariait avec un vieux, on lui ferait un vrai charivari. Mais quel charivari !
Quand les boîtes de fer-blanc et les grelots cessaient de résonner, la musette de Dimone y nasillait en persiflant les époux, puis une voix rauque que connaissait Marietta. Ah oui, elle la connaissait bien. Parlait de la vieillesse du père Cento et du danger qu'il courait d'aller dès le lendemain au cimetière s'il s'acquittait de ses devoirs d'époux.
« Mufle, chenapan !» rugissait le bonhomme, arpentant la chambre et gesticulant comme un énergumène.
Voulant savoir qui osait ainsi s'attaquer à lui, il éteignit la lampe et ouvrit le judas de la fenêtre grillée. La rue était pleine de monde. Quelques paquets de chènevottes sèches brûlaient avec une flamme rougeâtre qui, laissant dans l'ombre tout le reste de la foule, éclairait les auteurs du charivari. Le déguenillé avec toute la famille de Maham Thomas. Le vieillard s'indignait surtout de voir Dimoni accompagné de son instrument les couplets injurieux chantés contre lui alors que ce filou venait de recevoir 2 douros pendant la noce pour prix de son travail. Le déguenillé était infatigable. Les gens hurlaient d'enthousiasme en entendant ses chansons. Sainte, hors de lui, fit quelques pas en arrière et dans l'ombre sembla chercher quelque chose à tâtons. Quand il revint à la fenêtre, il vit la foule s'ouvrir pour laisser passer les amis du déguenillé qui portaient sur l'épaule un objet long et noir.
« Gori, gori, gori !» hurlaient les gens sur l'air du De Profondis.
2 énormes cornes, ligneuses et torses, furent hissées au bout d'un bâton. Puis un cercueil passa, au fond duquel gisait un mannequin grotesque ayant pour sourcils 2 grosses touffes de poils en broussaille.
Sacrebleu ! Ça, c'était pour lui !
Et on avait l'audace maintenant de lui lancer ce surnom de gros sourcil que jusqu'alors personne n'avait osé proférer en sa présence. Il rugit en s'éloignant un peu de la fenêtre et prit le long du mur un objet qu'il appuya à son visage crispé de fureur. 2 détonations formidables firent cesser net le carillon. Il avait tiré au jugé, mais tel était son désir de tuer qu'il était sûr d'avoir touché. Les torches s'éteignirent. On entendit la rumeur de la foule en fuite. Quelques voix crièrent
« Assassin ! Ces gros sourcils ! Montre-toi, fripouille !»
Mais Sainte ne les entendait pas. Stupéfié de son acte, le fusil lui brûlant les mains, il dit sourdement à Marietta épouvantée qui gémissait étendue sur le plancher
« Tais-toi, mordieu, ou je te tue !»
Il ne sortit de sa stupeur qu'en entendant frapper rudement à la porte qui donnait sur la rue.
« Ouvrez, au nom de la loi !»
Les domestiques avaient sans doute veillé toute la nuit, car la porte s'ouvrit aussitôt. Un bruit de crosse et de souliers à clous s'approcha de la chambre à coucher. Lorsque le père Ocento fut dans la rue, entre 2 gendarmes, il vit le cadavre du déguenillé troué comme un crible. Pas un plomb n'était perdu.
De loin, les amis du mort le menacèrent de leurs couteaux. Dimoni lui-même, titubant d'ivresse et d'émotion, le visait d'un air farouche avec sa musette. Mais lui ne voyait rien. Il s'éloigna, la tête basse, en murmurant avec amertume « La belle nuit de noces !»